France Musique.
Musique et moi.
Arne Desplechin.
Priscille Lafitte. France Musique.
Je vais les mettre par écrit. Commence-toi. Quel nom lui donne-t-on? Je ne sais pas. Quel nom allons-nous lui donner? Questionnaire sur le rêve de s'enfuir ensemble. Questionnaire sur le rêve des amants de s'enfuir ensemble. Questionnaire sur le rêve des amants entre deux âges de s'enfuir ensemble. Mais tu n'es pas entre deux âges. Bien sûr que si. Non, je trouve que tu fais jeune. Oui, eh ben, faudra sûrement en faire mention dans le questionnaire. Obligation pour les deux participants de répondre à tout. Commence. Quelle est la première chose qui en moi te porterait sur les nerfs? Quand tu es dans un de tes mauvais jours, qu'est-ce que ça donne? Es-tu vraiment exubérant à ce point? Nos énergies sont-elles en harmonie? Es-tu une extravertie charmante et bien équilibrée ou bien es-tu une solitaire névrosée? Combien de temps encore avant que tu te sentes attiré par une autre femme ou par un homme? Jamais tu ne dois vieillir. Penses-tu la même chose de moi? T'arrive-t-il de penser parfois à ces choses? Combien d'hommes ou de femmes te faut-il à la fois? Combien d'enfants souhaites-tu voir déranger ta vie? Jusqu'à quel point es-tu ordonné? Es-tu totalement hétérosexuel? As-tu quelque idée de ce qui m'intéresse en toi? Sois précise. Dis-tu des mensonges? M'as-tu déjà menti? T'attendrais-tu qu'on te dise la vérité si tu l'exigeais? Exigerais-tu la vérité? Penses-tu qu'être d'une nature généreuse soit signe de faiblesse? Est-ce important pour toi d'être faible? Oui, mais est-ce important pour toi d'être fort? Combien d'argent puis-je dépenser sans que ça te contrarie? Est-ce que tu me laisserais le moindre pouvoir sur ton argent? En quoi est-ce que je te déçois déjà? Qu'est-ce qui te gêne? Dis-moi, en as-tu la moindre idée? Quels sont tes vrais sentiments à l'égard des Juifs? Est-ce que tu vas mourir? Es-tu mentalement et physiquement en bonne forme? Sois clair. Préférais-tu quelqu'un de plus riche? Jusqu'à quel point te montrerais-tu stupide si on nous surprenait? Que dirais-tu si quelqu'un franchissait cette porte? 25. On continue, je n'en vois pas d'autres. J'attends avec impatience tes réponses, et moi les tiennes. Ah, j'en ai une autre, oui. Est-ce que tu aimes ma façon de m'habiller? Voilà qui est difficile à dire. Bon, pas du tout. Plus le défaut est insignifiant, plus il suscite la colère, je le sais par expérience. D'accord, d'accord. Une dernière question? Je l'ai, la dernière question. D'une façon ou d'une autre, dans quelques recoins de ton cœur, nourris-tu encore l'illusion que le mariage est affaire d'amour? Dans l'affirmative, ça pourrait entraîner bien des ennuis.
Thank you.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Priscille.
Merci d'avoir accepté cette invitation à venir parler de musique dans nos studios ce matin. Vous qui êtes cinéaste, qui donc portez un regard sur le monde, vous êtes aussi, si vous le permettez que je le formule ainsi, une oreille. On entend particulièrement dans votre dernier film qui est sorti en salle depuis 10 jours, Tromperie, film basé sur le roman de Philip Roth, Deception. On l'entend lorsque le personnage principal, l'écrivain, le double de Roth, dit qu'il est un écouteur, un audiophile, un fétichiste du verbe. On l'entend aussi dans le travail de la voix que vous avez effectué avec vos acteurs, avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Emmanuel De Vos. On l'entend dans votre bande-son subtilement composée par Grégoire Hetzel, qui a ponctué sa bande-son de silence aussi, dans cette chambre d'écriture, de chants d'oiseaux, un tramway qui passe alors même que les fenêtres sont fermées. Cette émission s'est ouverte sur une mise en abîme, en quelque sorte. C'est vous-même qui avez lu le texte de Philip Roth.
Oui, c'est le premier chapitre du livre de Tromperie, mais qui n'est pas la première scène du film. J'ai interverti certaines scènes, j'ai arrangé les choses différemment pour rendre le film plus narratif. Et j'adore ce questionnaire des amants de s'enfuir ensemble. C'est le jeu auquel se prêtent les amants une après-midi d'ennui à Londres.
Alors comment avez-vous guidé vos acteurs à s'emparer de ce texte? Un peu comme vous venez de le faire, seul, en monologue pour une...
J'ai des lectures séparées avec eux, c'est-à-dire pas les deux ensemble. Vous voyez, je lisais le texte de Denis et moi je jouais la monte anglaise, ou je jouais l'écrivain américain et Léa donnait le texte. Et j'invitais les acteurs à flotter dans le texte, c'est-à-dire à le respecter, parfois le tourner ou le transformer un petit peu, ou prendre un mot pour un autre, ou de l'exprimer. Je leur disais, mais flottez, respectez pas la lettre. Alors, d'habitude, je suis un maniaque de la lettre, et je sais pas pourquoi sur ce film-là, je leur dis, non, je veux que vous flottiez.
Qu'est-ce que permet le flottement?
Eh ben, d'ajouter une vie, vous voyez, de tout d'un coup que ce soit plus que les mots restent pas dans la page, mais tout d'un coup qu'ils soient plus incarnés. Mon obsession, c'était de pas faire un film trop froid, de faire un film qui soit charnel, sensuel, et donc que ça parle de vrais sentiments, quoi que ce soit, que ça reste pas sur la page. Je voulais que ça flotte, donc que les mots, ils s'élèvent et puis qu'ils atteignent, qu'ils touchent au cœur.
Alors, parmi les musiques de ce film, on entend quelques mesures du mouvement lent du concerto de Ravel que nous venons d'écouter ensemble sous les doigts de Martha Argerich. Cette musique accompagne un baiser
interminable, ardent. Comme la première phrase de piano qui est une phrase interminable. Oui, j'avais entendu, je ne sais plus quel pianiste merveilleux sur France Musique, qui disait le mal que lui avait donné le concerto de Ravel, parce que cette phrase n'arrête pas de ne pas finir, vous voyez. Alors du coup, comme c'était un baiser, ils s'embrassent et sans jamais que les bouches ne se rejoignent, et n'arrêtent pas comme ça de s'étreindre, parce qu'ils savent qu'un jour ou l'autre, ils seront plus ensemble. Et alors je trouvais que c'était parfait. Puis alors comme j'écoutais ça dans la version de Martha Argerich, je l'écoutais tous les soirs. Alors je me suis dit c'est parfait pour le film.
C'est d'un même souffle.
Oui.
Quelque sorte. Oui. C'est aussi le plus américain.
C'est ce que vous disiez. C'est
de
le Gershwinien. C'est
oui,
ça.
Oui, ouais. Composé juste à son retour des États-Unis.
Ouais. Il y a des échos Gershwiniens, jazz dans ce morceau. Ouais.
Donc des échos à Philip Roth. Arnaud Desplechin, nous allons tenter de faire votre portrait par l'intermédiaire de vos musiques de chevet, mais avant de dérouler cette partition personnelle, je vous propose de commenter encore une des musiques de la bande-son de ce film Tromperie.
Thank you.
Enfin, nous avons débuté cette émission avec l'évocation du concerto en sol de Ravel, mais il y a deux occurrences de musique classique auparavant. Il y a l'andante du quatuor La jeune fille et la mort de Schubert, qui entérine le couple officiel de Léa Seydoux, d'emblée marqué par la tromperie. Et quant à Chopin, il souligne le faux semblant dans le couple officiel de l'écrivain
américain et de son épouse, oui.
Alors qu'il s'apprête à gagner le lit conjugal.
Ouais.
Comment avez-vous choisi ces deux morceaux-là ?
Eh bien, je pensais que je cherchais un morceau qui soit un morceau de musique classique, comme on dit, parce que Philippe Roth était connu pour aller régulièrement dans des concerts. J'ai des amis new-yorkais comme ça qui le voyaient au Lincoln Center allant écouter de la musique de chambre, et donc je cherchais un quatuor ou un morceau pour piano. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir un fils qui apprend le piano depuis l'âge de 6 ans. Voilà qu'il a atteint 15 ans. Il ne désire pas être musicien. Il nous a toujours dit « je ne désire pas devenir pianiste ». Voilà. Allez savoir ce que la vie lui réserve. Et c'est le premier morceau qu'il jouait l'année où j'étais en train, donc l'année dernière, quand j'étais en train de monter le film, où j'entendais sa personnalité quand il jouait ce morceau de Chopin. Alors que d'habitude, c'était scolaire. Et là, il arrivait à parler de lui-même à travers les notes de Chopin. Alors j'en étais extrêmement ému, extrêmement touché de voir ce garçon de 14 ans qui arrivait à parler de lui, enfin, musicalement. Je me disais qu'il avait une chance inouïe, puisque moi, je ne sais pas jouer du pipeau. Donc, vous voyez, je ne sais rien jouer du tout. Et je me disais, mais quelle chance il a, vous voyez, je regardais ses doigts sur le clavier. Et ce morceau-là, et en même temps, c'est un couple qui se délite, c'est un couple qui s'éteint, plutôt. Et en même temps, il y a une obstination dans le morceau, comme un souvenir des jours heureux, et qui est tout le temps pris sous la cendre, et puis il y a cet obstinato qui revient, et la cendre qui le recouvre. Alors je trouve que ça correspondait parfaitement au couple que formaient Anouk Grimbert et Denis Podalydès.
Donc c'est le prélude de Opus 28, numéro 6, en séminaire de Chopin. Peut-on dire que vous filmez comme un musicien de jazz ?
J'aimerais, oui. Il y a certaines scènes qu'on tourne, comme ça, c'est le motto que je répète à la directrice de la photographie, Irina Lubchansky. Je lui dis, mais celle-là, on va la faire jazz. Et c'est jazz, c'est-à-dire que on refait pas une prise jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle prise, on déplace la caméra et on raconte autre chose. Si on prend le même thème, on fait des variantes.
Thank you.
Foggy Day de Charles Mingus. On entend déjà votre passion pour ce contrebassiste et compositeur dans le film Conte de Noël, mm-hmm. où on voyait même Jean-Paul Roussillon avoir est... la partition sur les genoux, et suivre. Fait, hein. Vous avez aussi ce rapport au jazz, partition sur les genoux, à la main?
Non, je sais pas lire la musique. Mon fils sait faire des tas de choses et moi non. Je ne sais pas parler cette langue-là. Je sais l'apprécier. Je sais pas. Et pourtant, je sais pas la parler. C'est un morceau. C'est un souvenir très précis du sortir de l'enfance. Et mon père, un ami de mon père lui avait offert un disque avec une version de Foggy Day autrement plus sauvage qui était dans Mingus in Europe. Et c'est ce thème que je connaissais très bien par la version de Sarah Vaughan et Clifford Brown, qui est un standard de l'American Songbook. Ça me plaisait beaucoup. Et alors j'écoutais fasciné la version de Mingus qui était sauvage, qui était déjà les prémices du free jazz et qui se débarrassait de la mélodie. Vous voyez, la mélodie est très sucrée. Tout d'un coup, il s'en débarrassait. Alors j'étais stupéfait. Et puis peu à peu, j'ai appris comme ça. On m'a appris l'histoire de ce morceau. Alors c'est les paroles correspondent un petit peu au film Tromperie, un jour pluvieux à New York et tout ça, à Londres. Et puis je m'ennuyais au sorti du British Museum et tout d'un coup tu apparais, le soleil revient. Mais alors comme Mingus à cette époque-là, quand il a réinterprété ce morceau, avait jamais vu Londres, ce Foggy Day in San Francisco. Alors c'est ça, les klaxons que vous entendez au début, c'est les embouteillages sur le Golden Gate qui arrivent et tout le morceau tout d'un coup devient absolument américain, il n'y a plus de nostalgie de l'Europe. Et j'ai le souvenir de ce désir que j'avais enfant, de comprendre cette musique, arriver à se libérer de la mélodie pour arriver à d'autres harmonies et à des rythmes qui étaient plus singuliers, qui étaient plus free. Et c'était un effort pour moi de comprendre cette musique. Comme plus tard, ça aura été un travail pour moi d'arriver à écouter Webern ou à écouter de Boulez ou à écouter des compositeurs qui sont pas faciles au premier abord, quoi. Et d'y avoir accès, c'était très important pour moi.
Et filmer free, ça voudrait dire quoi?
Ah, Film et Free, il y en a quelques-uns qui arrivent. Cazavets, peut-être, y arrive. Vous voyez, il y a peut-être quelques cinéastes américains qui arrivent. J'en suis pas encore là. J'ai encore, je peux peut-être y arriver dans 2 ou 3 films, mais laissez-moi 2 ou 3 films pour arriver à être free, vraiment.
Round Midnight par Don Pollen, par le pianiste Don Pollen, un des choix jazz du cinéaste Arnaud Desplechin ce matin.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Vous nous parliez un tout petit peu plus tôt du jazz comme une succession de prises, de chorus. Les prises de cinéma. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un ancrage rythmique qui vous intéresse ? C'est-à-dire qu'il y a des digressions, mais en même temps, il quitte jamais des yeux la route.
Oui, il y a le rythme qui accompagne, qui structure, mais c'est plus la mélodie s'en affranchit complètement. C'est un morceau qui m'était fait... Enfin, je ne connaissais pas Don Pullen, qui fut un pianiste de Mingus, un des pianistes de l'orchestre de Mingus, et c'est Charles Esser qui m'a fait connaître ça, qui est un jeune pianiste prodige français, et je suis tombé sur ce morceau, Round Midnight. Alors il y a des morceaux beaucoup plus free, mais celui-là, ce qui est très drôle, c'est un ami musicien me disait, il commence, il est très poli, il expose le thème, il était très gentil, oui, c'est un bon élève, il expose le thème de Monk et tout ça, et puis un peu il s'en affranchit et il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire il raconte ce qu'il veut avec la mélodie, il la transforme, il la tourne, alors vous voyez, pour quelqu'un qui ne sait pas jouer comme moi, c'est vraiment un délice de plonger dans cette, et il déborde d'imagination, il y a les idées qui fusent dans tous les sens, et il y a le rythme qui structure, mais il n'y a plus que le rythme qui structure, on n'est plus l'esclave de la mélodie on peut s'en libérer, en inventer d'autres, les déconstruire, la retourner, la mettre à l'envers, etc. Et tout ça est possible.
Est-ce que cela est possible aussi avec le texte ? On parlait du rapport au texte de tromperie au début de l'émission.
Je crois, je vous disais, flotter dans le texte et tout d'un coup accepter, c'est se lancer dans une scène. Je pense à aller assez doux, singulièrement. Alors voilà, on ne sait pas si c'est une scène drôle ou triste. Alors on va l'essayer, puis on rit. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il y a une prise où Léa dit, qui est une actrice... épris de justesse à la folie, vous voyez. C'est pas juste, le son est pas juste, je vois, on refaire une, et voilà qu'elle éclate en sanglots au milieu de la prise, on se dit, ah bah tiens, c'était une scène tragique. Et c'est parfait, il suffit, il n'y a pas besoin de la refaire, là, on fait plutôt de prise, la vérité a été dite sur la scène. Mais avant qu'on la commence, on savait pas si c'était une scène de comédie ou une scène de tragédie. Vous voyez, c'est d'attendre comme ça, d'arriver à faire sonner la mélodie comme ceci ou comme cela, ça c'est très jazz, et ça c'est dû à l'instant, c'est de pas être l'esclave de l'intrigue, comme les musiciens peuvent ne pas être l'esclave de la mélodie.
Vous arrive-t-il de diriger les acteurs les yeux fermés, rien qu'à la voix ?
À la voix, non, je fais l'inverse, figurez-vous. Je sais que, hein, c'est connu, Pagnol dirigeait ses acteurs en fermant les yeux et avec le casque sur les oreilles. Et alors moi, je crois pas à ce que les gens disent, parce que quand je suis au cinéma, c'est comme si j'avais 7 ans. C'est-à-dire, je vois des adultes qui parlent, qui se disent des trucs compliqués, je comprends rien à ce qu'ils disent. Et ça m'intéresse vachement de les regarder. Alors du coup, je me bouche les oreilles et je regarde. Et je me dis, ils se disent des choses terribles. Vous voyez, comme un enfant qui regarde des adultes qui parlent. Je me dis, ils se disent des choses délicieuses. Mais ça m'intéresse pas exactement ce qu'ils disent. Après, plus tard, au montage, ça m'intéressera d'organiser les mots, d'agencer les mots d'une façon qui me convienne. Mais il m'arrive parfois de me boucher les oreilles pour mieux les voir.
Thank you.
Quelle version ?
La version du Casal Quartet avec Fazil Say au piano, du quintet de Schumann. Lorsque vous écoutez un tel quintet, Arnaud Desplechin, l'écoutez-vous comme directeur d'acteur, lorsqu'il y a ces dialogues entre le piano et le quatuor?
J'écoutais dans cette version que je ne connaissais pas. Tout d'un coup, j'entends des notes. Vous voyez, comme un acteur qui vous fait entendre un mot que vous n'aviez pas prévu, que vous ayez écrit le texte ou qu'il s'agisse d'une adaptation. Tout d'un coup, un mot vous semble singulier parce que l'acteur sait le dire. Et là, il y a des notes que j'avais. Pourtant, je croyais connaître le morceau par cœur. Des notes dans les cordes, des frottés, des attaques de cordes dans les contrepoints et tout ça que j'avais jamais entendu. Je ne savais pas qu'elles étaient là. Je ne sais pas que Schumann les avait écrites et puis il nous les donne à entendre. Et bien sûr, il y a cette écoute-là très fort. Et c'est un thème qui me touche beaucoup, ce deuxième mouvement, parce que c'est la musique de Fanny Alexandre qui doit être un des deux films qui compte le plus pour moi au monde. Et donc j'entends toujours le début avec ce petit garçon qui joue au théâtre, et puis on entend le morceau de Schumann, et puis il cherche sa grand-mère, il cherche son père, sa mère, et puis il va se coucher dans le lit de sa grand-mère, il roule sous une table, il traîne dans une maison vide, et il appelle maman, papa, comme ça, en suédois. Et du coup, à chaque fois, ça m'emplit. C'est un morceau d'enfance absolue, quoi, pour moi, puisque Fanny Alexandre étant un film d'enfance absolue.
Qu'est-ce que Bergman vous a enseigné sur l'utilisation de la musique?
Ah, c'était un maître. Et sa dernière épouse était une pianiste et là, j'ai pas retenu le nom parce que je suis un imbécile. Mais les musiques de ses films, quand il faisait encore dans ses premiers films des musiques originales, étaient tout à fait remarquables. Et il y avait déjà des sons du 20e siècle. C'était pas des musiques nostalgiques ou des musiques hollywoodiennes ou des musiques nostalgiques du 19e siècle. Il essayait d'inscrire des sons contemporains à l'intérieur de partitions originales qu'il faisait pour ses premiers films. Et puis peu à peu, l'amour aidant, il s'est servi de morceaux du répertoire qu'il utilisait, mais de manière très très précise et très très précise et pas bavarde du tout, quoi. C'est comme dans Fanny Alexandre, qui est un film plutôt silencieux. Le Schumann sonne et sonne au moment où il faut qu'il sonne. Je pense à son dernier film, Sarabande, où la jeune héroïne est violoncelliste. Voilà, la musique n'arrive que quand elle est requise, mais pas ailleurs. Il y a vraiment un art du placement musical chez lui qui est très différent de celui de Kubrick, mais qui est du même niveau, quoi, qui est du niveau des très grands.
Qui vous a inspiré, je pense, Arnaud Desplechin. Parce qu'on note aussi chez vous ce souci de placer des références musicales qui soient courtes.
Mais
il n'y a pas du tout l'usage d'un thème ou d'une scie musicale qui viendrait...
Non, les scies, c'est terrible.
Voilà, de façon lancinante, rythmée, ressusciter une émotion, etc. Vous évitez complètement ça.
Ben, j'essaie d'éviter si possible.
C'est un écueil pour vous?
Mais tout ce qui fait si, c'est un écueil. Je vous disais, c'est des choses qu'on apprend dans la musique du 20e ou du 21e siècle et qu'on apprend dans le jazz. C'est comment pas être captif de la mélodie et de pas être captif de l'intrigue ou du sentiment ou du pathos, mais de pouvoir s'en libérer. Ça veut pas dire être loin du sentiment. Au contraire, c'est s'en rapprocher, mais sans le sucre qui peut y avoir autour, c'est enlever du sucre. Et c'est toujours ce qu'il faut dans la musique ou dans les intrigues. C'est que quand c'est sucré, c'est pas bon.
Thank you.
pour du sucré, vous vous la servez tout de même.
Super sucré. Bah oui, mais j'adore le chevalier à la rose aussi. Oui, j'adore ça. Oui, là, c'est très, très sucré. Mais c'est pas une scie. Vous pensez de ça. C'est pas une scie. Mais là, et puis c'est surprenant, venant de Schoenberg, vous voyez, de voir ce qui composait ça tout jeune, mais il y a un côté, la Strauss, comme ça, qui est tellement délicieux. Donc, c'est sans culpabilité que je me vautre dedans.
Donc, c'est effectivement le Schoenberg jeune des goûts leaders. C'est la monumentalité de l'œuvre qui vous attire ici.
Et c'est que tout scintille. Hein. C'est quelque chose que j'aime dans les œuvres, que j'aime quand. Alors, ça me surprend dans la musique. C'est quelque chose que je connais très bien au cinéma. C'est quand tout d'un coup la réalité scintille. Hein. Et là, Schoenberg arrive à faire scintiller toutes les notes. Et c'est ce scintillement, c'est quelque chose, c'est cet éblouissement, ce côté enfantin. Vous voyez, quand tout d'un coup la vie ou le son se met à pétiller, ça m'enchante. Vous voyez, même si effectivement c'est très sucré, ça m'enchante.
Comment écoutez-vous ces musiques-là chez vous? Est-ce que vous les écoutez en faisant quelque chose ou c'est vraiment un état de concentration et de développement de l'imaginaire?
Oh, j'écoute la musique un petit peu tout le temps, quand même, un petit peu tout le temps. J'écoute pas les mêmes tout le temps, et puis parfois, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même. C'est des moments importants de rencontre, de ne faire que ça, de ne faire que écouter. Pour moi, c'est toujours d'habitude en travaillant ou en préparant ou en m'occupant de chez moi ou en faisant des trucs. Et puis tout d'un coup, vous arrêtez, il y a un morceau qui vous importe, et là, il faut le creuser un petit peu, faut y arriver sérieusement. Et donc, c'est pas fréquent, mais c'est des rendez-vous avec moi-même assez importants que je peux avoir. Les gros leaders, ça m'arrive de les jouer, voilà, de me dire, je vais écouter. En plus, c'est pas ça chanter, vous voyez, qui me sont pas d'un accès facile. Alors, du coup, j'ai besoin de m'arrêter, d'écouter pour y avoir accès. Je me rappelle ces voix d'hommes comme ça qui commencent à sonner, j'ai pas de facilité avec les musiques vocales parce que c'est pas la culture, ma culture d'origine. J'ai le souvenir avec un ami, Eric Gauthier, d'avoir été voir Le Chant de la Terre par Simon Rattle et qui était chanté pour deux voix d'hommes. Et alors, c'était renversant, quoi. C'était au Châtelet. C'est d'une beauté insensée, quoi, d'entendre ça. Alors là, c'est bien parce que vous pouvez faire que ça. On n'aura pas le temps de le jouer aujourd'hui, mais aussi pour la musique plus moderne. Je vous disais, c'est plus facile de la voir que de l'écouter en disque. J'ai beaucoup de disques de Ligeti, et pourtant, quand j'étais voir les concertos de Ligeti, je me souviens plus du nom du chef d'orchestre à la Philharmonie. Alors là, vous voyez les instruments, alors vous comprenez la musique, parce que vous comprenez les notes, par qui elles passent, comment elles font pour arriver jusqu'à votre oreille. Donc c'est des moments où vous ne faites que ça, que écouter. Évidemment, l'écoute, cette écoute plus approfondie, elle vous nourrit d'autant plus, quoi.
Et Takemitsu, c'est également au concert que vous l'écoutez?
Takemitsu, ça m'est arrivé.
C'est au cinéma.
Par le cinéma, ça m'arrivait par Kurosawa, puisqu'il avait composé la musique d'Oran qui m'avait stupéfaite et que j'ai réécouté beaucoup. Et là, j'ai fait que ça, que écouter le score de, qui à mon avis est un grand morceau du XXe siècle, et la bande-son d'Oran. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait Ozawa qui avait dirigé des pièces de musique contemporaine que Takemitsu, et je suis tombé amoureux de lui, peut-être aussi mes voyages au Japon, comme ça, d'avoir connu des gens. C'est un compositeur très très cinéphile. Voilà, j'aimais cet homme, j'aime sa musique. C'est peut-être aussi les influences françaises que je ressens chez lui. Peut-être je me trompe, mais j'entends du Messiaen chez lui, j'entends du Debussy, et ça me bouleverse.
Thank you.
le concerto pour alto de Toru Takemitsu. Vous qui aimez travailler avec des compositeurs d'aujourd'hui, Arnaud Desplechin, oui, Grégoire Hetzel pour votre dernier film, vous avez également beaucoup travaillé avec Howard Shore. Que leur demandez-vous précisément?
C'est difficile parce que il y a un mariage mystérieux. C'est de prendre le spectateur par la main et de l'accompagner dans le. J'ai été éduqué par des cinéphiles très puissants comme Jean Doucet qui disait les films muets, faut les regarder muets. Vous voyez, c'était la théorie de l'ancienne cinémathèque de Langlois, etc., qu'il fallait les regarder. Et c'est pas vrai. Les films ont toujours été accompagnés par des musiciens et je vous disais, quand je regarde un film, je suis comme un enfant, j'écoute pas bien ce que les personnages disent, j'écoute la musique que fait leur voix, quoi. Je suis vraiment très très jeune d'esprit quand je regarde un film. Alors j'aime bien que le compositeur qui travaille avec moi prenne le spectateur par la main et lui dise, voilà, c'est très triste, mais qu'il aille chercher le paradoxe des sentiments, vous voyez, c'est pas de renforcer le sentiment, c'est qu'il aille montrer une tristesse dans une scène heureuse, ou au contraire une joie dans une scène de désespoir, ou des choses comme ça, et c'est d'éviter les, et c'est d'essayer de, c'était très fort avec Howard Shore, et ça allait tout autant avec Grégoire, c'est essayer de faire entendre quand même le siècle, vous voyez, je veux dire par là la deuxième moitié du XXe siècle, c'est de faire entendre, même si c'est des musiques plus aisées à écouter, puisqu'il y a les voix au-dessus, etc., donc il faut certains codes harmoniques, vous voyez, ce serait très difficile d'avoir de la musique dodécaphonique dans un film, parce que pour repérer les 12 notes, vous voyez, le système des 12 notes, il faudrait supprimer les images et avoir plus que la musique, vous voyez, donc vous êtes obligé de passer par des codes populaires, et pourtant je trouve ça intéressant de faire entendre la fin du XXe siècle et le XXIe dans lequel nous vivons, de le faire entendre même si c'est des musiques qui sont plus mélodiques avec le genre de musique que je peux écouter à la maison.
Parce que ces musiques disent quoi sur nous aujourd'hui?
Ben oui, c'est de parler aujourd'hui, de servir des sons d'aujourd'hui.
Oui, parce que c'est vrai que souvent on associe le cinéma, on dit que le cinéma est très contemporain, que vraiment c'est un reflet de notre société d'aujourd'hui. Et qu'il y a une distance qui a été mise entre la société d'aujourd'hui et la musique contemporaine. On a du mal parfois à trouver l'adéquation entre ces musiques-là,
ben ouais,
que vivons, et vous la trouvez.
Ben c'est pas mal d'être un tout petit peu pédagogue, quoi. Vous voyez, la première fois que j'ai entendu, je pense à une pièce qui est pas Quatuor de malheur, par exemple, pièce de jeunesse, la première fois que je l'ai entendue, c'est dans un film, Shutter Island. Vous voyez, les premières fois que j'ai entendu Ligeti, alors c'était beaucoup plus jeune, c'était dans 2001 du ciel de l'espace, je crois, ou c'était dans, je sais plus quel film de Kubrick, où d'un coup, il nous donnait à entendre la musique du siècle dans lequel il vivait. Et c'est pour ça, je pensais, peut-être aussi c'est par Grégoire Hetzel, qui donc avec qui on a fait tant de films, voilà, il avait des liens d'amitié, une grande admiration pour Olivier Greff, c'est lui qui me l'a fait connaître, et puis je l'ai entendu également sur France Musique. Il me dit, c'est beau, alors, et puis c'est triste, voilà un compositeur qui était très brillant et jeune et qui a disparu, alors faut faire entendre sa musique, alors je me dis, l'écoutant, je trouve que c'est une musique qui est tellement, j'espère que le mot serait pas insultant à sa mémoire, storytelling, vous voyez, qui vous raconte des histoires, qui fait naître des images en vous, des sensations, que voilà, je trouve de dire, voilà, c'est pas que de la musique du 19e siècle, quoi, c'est beau de faire entendre des sons d'aujourd'hui. Ça, c'est un petit peu important pour moi.
Arnaud Desplechin, vous nous parliez de votre rapport au chant et à la voix, un peu plus tôt.
Oui, c'est toujours quelque chose qui est à conquérir pour moi, je vous disais, qui n'est pas simple, parce que le chant classique, c'est pas mal, la culture dans laquelle j'ai grandi. Mes parents n'aimaient pas du tout le chant lyrique, et alors du coup, c'est quelque chose que j'ai appris plus tard.
Cet air
me rend fou.
Et pourtant, il y a du chant lyrique très présent dans la sentinelle.
Déjà dans la sentinelle, ouais.
Et cet air qui revient par deux fois...
Dans La Vie des Morts, il y avait un Mozart aussi, puisqu'il y avait il chantait le Rock Lebovici, accompagnait d'écouter les Noces de Figaro, et il chantait l'air de Chérubin devant sa tante. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a occupé.
Et donc cet air revient par deux fois dans Trois souvenirs de ma jeunesse, chanté par Karine Deshaies, et on entend aussi la version disque, je crois. Ici dirigé par Pierre Boulez.
Ouais.
Il y a cette scène finale où on voit Karine Deshaies sur scène.
Sur scène. Et Mathieu Amalric vient la voir, et c'est là qu'il rencontre. Enfin, c'est là qu'il vient pour repenser à la femme aimée, Esther, qu'il a perdue. Et voilà qu'il est empli de mélancolie et de fureur en même temps. Et il écoute cet air. Alors cet air me touche pour une raison, et j'ai une théorie aberrante. Je l'ai découvert sur France Musique, pas de surprise. Et comme vraiment par hasard. D'abord, c'est un air d'Hugo Wolf, mais orchestré par Stravinsky. Il me fait toujours penser à un morceau qui a beaucoup d'importance pour moi, qui était l'offrande musicale de Bach, réorchestrée par Webern. C'est-à-dire de prendre comme des standards de jazz, mais vous les rejouez, vous faites entendre un son nouveau, avec un air qui ça devient plus, c'est plus une scie, quoi, justement. C'est plus, vous voyez, vous décollez le morceau de l'endroit d'où il est né. Et dans les bois et les qu'on entend dans les chants sacrés, j'entends un souvenir d'une musique qui compte beaucoup pour moi, qui est la musique de Vertigo par Bernard Herrmann. Et j'ai eu cette fantaisie quand j'entendais, j'ai regardé un peu par internet, vous voyez, quand j'ai entendu ce morceau, et puis qui est très difficile à se procurer, sur France Musique, et je me disais, bah voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est je sais que Schwarzkopf faisait une tournée, aux États-Unis, et c'est elle qui avait repris le songbook de Hugo Wolf, qui était pas très connu à l'époque, et elle l'avait tourné aux États-Unis. Et je me disais, en fait, il y a dû avoir un concert à Los Angeles. Dans la salle, il devait y avoir deux personnes. Il y avait Bernard Herrmann qui s'est dit « Ok, je vais composer Vertigo ». Et il y avait Stravinsky qui s'est dit « Moi, je vais juste réorchestrer le truc ». Et ça fait le même morceau, mais vu par un musicien populaire, Herrmann, et un musicien de génie, Stravinsky, et qui tous les deux s'inspirent de Hugo Wolf. Et je trouve ça... Et j'adore imaginer cette salle de spectacle à Los Angeles, vous voyez, avec les palmiers, et la nuit encore un peu chaude et un peu moite. Et les deux compositeurs, chacun sortant tout à fait résolus à adapter Hugo Wolf, et chacun à leur façon.
Qu'est-ce qui vous empêche d'apprivoiser la voix lyrique? Sur quoi est-ce que vous butez, croyez?
C'est parce que ça m'est étranger. Je bute pas, parce que je vous dis, quand j'arrive en tombe amoureux, comme je vous dis, ce renversement, vraiment, c'est, pour moi, c'est un renversement, le chant de la terre dirigé par Rattle pour voix d'homme, c'était un renversement. Mais à chaque fois, je dois le conquérir. Vous voyez, je sais, parce que c'est loin des codes. Il y a la peur du ridicule, il y a la peur des codes que vous maîtrisez mal, etc. Alors, quand vous arrivez à vous l'approprier, évidemment, c'est un... La voix, c'est un instrument absolu, dans le sens, vous voyez, je vous ai parlé de Jean Douché qui disait faut regarder les films muets sans musique, j'étais pas du tout d'accord avec lui, mais il m'a appris quelque chose, c'est que l'outil le plus merveilleux de la mise en scène, c'est la direction d'acteur, tout simplement, et l'instrument le plus beau, c'est très certainement la voix humaine.
Alors, pourquoi le chant lyrique occupe-t-il une place si importante dans La Sentinelle, puisque c'était votre premier film?
C'est Lacan qui disait que dans cette recherche de beauté absolue, vertigineuse, et de beauté incarnée, vous voyez, que ce soit le corps qui produise de la beauté, et en même temps un désir de mort. Vous voyez, tellement c'est des désirs immenses. Il y a un vertige, vous voyez, c'est un désir d'une beauté tellement absolue qu'elle touche au désir de mourir. Vous voyez, c'est quelque chose qui me renverse, et qui était très proche du sujet de La Sentinelle, entre ce frère qui a un métier très humble, vous voyez, qu'il y a un médecin qui s'occupe des morts et sa sœur qui s'occupe de la beauté, pas de quelque chose de vil, mais quelque chose de noble, et qui en même temps aspire à la mort, elle aussi.
Qui est dans la résonance aussi du crâne. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Dans ses vibrations. Hein. cette sonate de Scarlatti, ici jouée par Scott Ross, résonne dans un conte de Noël. Il y a toute la sensualité qui s'en dégage.
Oui, c'est une sensualité étrange en même temps, parce que c'est au clavecin, c'est sec. Et puis j'entendais l'interprétation de Scott Ross qui est... Voilà, elle nettoie le morceau, tout devient abrasif, quoi. Et alors la scène en question, c'est une scène à laquelle je tiens beaucoup dans ma vie, et avec Chiara Mastroianni, et qui fut une scène improvisée sur le film. Elle n'était pas écrite. Et un soir, nous avions terminé un peu plus tôt que d'habitude, et j'ai pris Chiara par la main et je lui dis, oui, mais alors voilà, c'est Chiara qui est une mère, qui a des enfants. Ça me fait tout ça me ramène à Tromperie. Ça me fait beaucoup penser au personnage féminin dans Tromperie. Elle est assez doux. Et voilà qu'elle a une histoire avec un ancien amant éconduit. Puis ce coup-ci, elle les conduit pas et ils passent la nuit ensemble. Et puis j'avais pas écrit parce que je sais pas faire ce genre de scène, etc. Puis j'ai dit, allez, montons et improvisons quelque chose. J'ai demandé à l'acteur qui jouait le rôle, Laurent Capelluto, je lui ai dit, ben, je vais te remplacer. Et c'est moi qui tenais le rôle. Et donc, je me suis assis sur un lit et je tendais la main. Je me souviens très bien du texte que j'improvisais. Il y avait Chiara qui improvisait devant moi. Et elle se déshabillait peu à peu. Et c'était le contraire d'un striptease, vous voyez. Et je lui ai dit, ben, tu vois, ça, c'est tes bras. Ça, c'est tes épaules à toi. Voilà tes jambes. Ici, c'est ta hanche. Et je lui disais le mot comme ça, lentement. Et elle rigolait. Et elle s'approchait, elle circulait. C'était filmé à l'épaule. C'était sublime. On a enlevé tout le son. De toute façon, on pouvait pas le garder. C'était moi. Donc, c'était pas possible. J'étais pas l'acteur. Il y avait le Scarlatti qui retentissait dans le silence absolu. Et avec des images. Et c'était beau comme du cinéma muet. Et c'est une des très, très grandes performances de Chiara Mastroianni. Et j'étais extrêmement fier de l'avoir filmé.
Comme toute dernière musique, Arnaud Desplechin, nous allons écouter la voix de Bob Dylan.
Oui.
Une voix pour terminer. Et quelle voix ?
Quelle voix ? Je pense, vous savez, il y a un documentaire dans le titre m'échappe, qui est le documentaire le plus connu sur Bob Dylan, réalisé par Penn Baker, qui est sur ses tournées en Angleterre. Et il tombe sur des méchants journalistes qu'il n'aime pas du tout, vous voyez, qui lui disent du mal, et puis qui sont très provocants, comme les Anglais peuvent l'être. Et donc ils disent, mais vous savez pas chanter, vous chantez trois notes, vous n'êtes pas un bon chanteur, etc. Et à ce moment-là, Bob Dylan, qui est tout jeune, il répond avec une voix très sereine, il dit, but I'm a better singer than Caruso. I'm the best singer on earth. Obviously, I'm a better singer than Caruso. Oui. Et c'est vrai que c'est incroyable et vieillissant. Il n'a même plus deux notes, il n'en a plus qu'une. Et son dernier disque est admirable et c'est chanté admirablement, mais avec un art très différent de l'art lyrique, puisque c'est avec très très peu, vous voyez, la chanson que je vous ai proposée, c'est une chanson dont les paroles me touchent beaucoup, qui est sur une chanson qui, à propos d'un autre chanteur, qui est Blaine Willis McTell, qui était ce chanteur, aveugle afro-américain. Et alors les paroles, c'est Bob Dylan décrit simplement les choses qu'il voit. Il dit, je vois des prisonniers sur la route qui sont en train de réparer la route et qui sont enchaînés. Je vois une femme qui sort de sa maison. Je vois des enfants qui jouent près d'une rivière. Je vois un type qui part au travail. Et pourtant, je ne saurais jamais chanter le blues comme Blaine Willis McTell. Et c'est toute la vie de Bob Dylan. C'est pas du tout devenir un héros, une star. C'est son rêve, c'est de faire la chanson américaine la plus modeste, la plus simple, la plus immédiatement accessible. Et il en a écrit combien ? Et à la poursuite de ce rêve d'être absolument anonyme et d'appartenir à l'American Songbook. Je trouve ça admirable.
Seen the arrow on the doorpost. Saying this land is condemned. All the way. From New Orleans to Jerusalem, I traveled through East Texas, where many martyrs fell, and I know. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well.
see them big plantations burning. Hear the cracking of the whips. Smell that sweet magnolia blooming. See the ghost of slavery's ship. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. God is in his heaven, and we all want what's his. But power and greed and corruptible sin seem to be all that there is.
La voix de Bob Dylan qui figurait dans votre film Les
Le fantômes d'Ismaël. Oui, c'était Marion Cotillard qui dansait furieusement et avec beaucoup de elle dansait comme un jeune chien sur It Ain't Me Babe, qui est une chanson indansable. Mais Marion Cotillard étant une très grande actrice, elle y arrivait parfaitement.
Un grand merci Arnaud Desplechin pour merci cette grande traversée aussi musicale de Maurice Ravel jusqu'à Bob Dylan. Maurice Ravel qui figure donc dans votre dernier film Tromperie, qui est encore en salle. Un grand merci aussi à toute l'équipe qui a permis ce Musique et moi. Bruno Mourlan à la technique, Marie Grou à la réalisation, Nelly Portal et Marie Ferdinand attachée de production. Passez un très bon dimanche sur France Musique. Et la semaine prochaine, 11h, pour un nouveau Musique et moi.
À réécouter sur francemusique.fr.